Sokɛ ka ɲi siri bɔlɔ la kayala
musow ka fo
ka wale ɲumandon
musow ka fo
ka bonyaɲa sɔrɔ musow ka bɛ yaki
walekɛ
musow
ka
fa ni fama bonyaɲa sɔrɔ.
3 mois et 10 jours se sont écoulés depuis les attentats du 13 novembre. Notre pays vit depuis sous le régime de l'état d'urgence. En Eure-et-Loire, le directeur de cabinet du préfet, Frédéric Loé, en charge l'application de l'état d'urgence. Il a accepté de faire le point sur la situation à notre micro, ce dont je le remercie. Alors, première question, Frédéric Loé, quel est le bilan de ces 3 premiers mois d'état d'urgence en Eure-et-Loire, notamment en termes de perquisition administrative et d'assignation à résidence?
Alors effectivement, le préfet a essayé de faire le meilleur usage de ces leviers de police administrative supplémentaires octroyés par l'état d'urgence. En matière de perquisition, on en est aujourd'hui à une 50aine de perquisitions réalisées. Pour être plus précis, on en a 38 en zone police et 12 donc en zone gendarmerie. Quant aux assignations à résidence, c'est 3 personnes qui sont assignées à résidence aujourd'hui en Eure-et-Loire.
Ces perquisitions sont des relais sur l'ensemble du territoire, ou est-ce qu'il y a quand même des endroits, des zones géographiques qui sont le plus ciblées?
Alors, comme je le disais, on en a essentiellement en zone police, donc ça atteste du phénomène urbain. Alors, c'est plutôt les villes, alors comme Dreux, Vernouillet, Chartres, Mainvilliers, Lucé, qui sont concernées, mais on en a aussi en pleine campagne, dans des villages ou des petites villes en zone rurale. Ça montre au passage que le phénomène de la radicalisation n'est pas uniquement concentré dans les villes qui pourraient a priori être identifiés comme plus ciblés.
Sur la foi, de quel type de renseignement décide-t-on de mener une perquisition ?
Alors on a toute une série de sources d'informations. La principale, c'est l'action des services, donc les services de renseignement qui peuvent nous fournir des informations qui peuvent ensuite déclencher la perquisition. Mais on a aussi des signalements spontanés qui sont réalisés parfois par la famille, par le voisinage, donc des gens qui changeraient de comportement alimentaire, vestimentaire, qui se renfermeraient, qui par exemple arrêterait de scolariser un enfant ou aurait une pratique religieuse particulièrement fervente, donc peuvent être signalés soit par des membres de la famille, comme je le disais, soit par des voisins, ou alors les services de renseignement. Donc on a de multiples sources, mais systématiquement, pour qu'une perquisition soit déclenchée, il faut quand même qu'il y ait un faisceau convergent de présomptions.
Vous avez parlé de déscolarisation d'enfants, c'est un phénomène qui existe en Eure-et-Loire.
Alors pour être plus précis, il s'agit de déscolarisation de très jeunes enfants, donc en deçà de l'âge légal de scolarisation obligatoire. Il y a parfois effectivement des jeunes enfants qui sont connus par exemple par la garderie, mais qui auraient été retirés de l'école. Donc évidemment, on prend toutes les mesures de protection de ces enfants le cas échéant.
Alors, je suppose que les assignations à résidence viennent après les perquisitions administratives, le cas échéant. Quel est, si j'ose dire, le portrait robot d'un assigné à résidence ?
Donc, évidemment, vous le constatez par les chiffres, 50 perquisitions, 3 assignations à résidence. Voilà, on voit bien que c'est un levier que l'on utilise avec parcimonie. D'ailleurs, au passage, notez que les assignations à résidence sont signées par le ministre de l'Intérieur lui-même. Elles sont proposées par le préfet, mais signées par le ministre de l'Intérieur. C'est dire à quel point on prend la chose sérieusement, puisque l'état d'urgence ne veut pas dire pour autant que l'on piétine les libertés individuelles. Et donc, chaque fois qu'une personne est assignée, c'est que, en plus d'un faisceau de présomption, on aura pu trouver dans la perquisition des armes, des preuves d'un engagement militant, ou en faveur du djihad, ou en faveur à tout le moins du prosélytisme, ou favorisant la conversion de mineurs ou leur voyage vers les terres du djihad, c'est-à-dire la Syrie, la Libye ou l'Irak.
Alors, rétrospectivement, est-ce qu'un homme comme Ismaël Mostefaï, l'un des terroristes du Bataclan qui a vécu à Chartres, aurait pu selon le faisceau des critères d'aujourd'hui, être assigné à résidence, ou est-ce qu'il aurait pu passer à travers les mailles du filet tout de même?
Alors, il est toujours plus facile de refaire l'histoire après coup, hein, mais il est vrai tout de même qu'à l'époque, le préfet n'avait absolument aucune possibilité d'utiliser ces leviers-là. Ça n'existait pas. C'est vraiment réservé à la période actuelle, c'est-à-dire l'état d'urgence. Et pour empêcher une personne d'agir ou de partir, eh bien, il y aurait fallu un phénomène de judiciaire. Il aurait fallu une enquête judiciaire déclenchée par le parquet avec des preuves, avec une procédure contradictoire. Bref, un phénomène quand même difficile à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, ce serait plus facile avec les outils de police administrative dont on dispose. Mais encore une fois, il faut rester modeste, puisque le ministre de l'Intérieur le disait encore récemment, face à nous, on a un phénomène qui frappe plus de 1200 personnes en France. Et il est évident qu'on ne peut pas surveiller 24 heures sur 24 1200 personnes.
Ouais. On se dit que l'état d'urgence, c'est pas un minimum, mais c'est nécessaire dans la situation où nous nous trouvons, d'autant que les menaces restent d'actualité.
Plus que jamais, la menace existe. Ce que l'on constate, c'est que les terroristes frappent systématiquement des lieux nouveaux, tantôt un supermarché, tantôt une salle de spectacle, une enceinte sportive. Pour l'instant, ils ont frappé surtout en région parisienne, mais rien n'interdit de penser qu'un jour, ils élargissent leur rayon d'action. Et donc, plus que jamais, il faut rester vigilant. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous éveillés à ce risque. Tous les services publics sont aujourd'hui sensibilisés et nous y contribuons. Nous essayons de sensibiliser tous ceux qui accueillent du public, par exemple, ou tous ceux qui traitent des dossiers sociaux, qui peuvent aussi concerner ces jeunes ou moins jeunes en voie de radicalisation. Et donc, on peut espérer que cette vigilance de tout un chacun nous permettra, sinon d'empêcher, au moins d'anticiper ou de rendre plus difficile des attentats dans l'avenir.
Alors, les perquisitions ont permis de trouver des armes, mais aussi de la drogue. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être à la fois islamiste et consommateur, voire trafiquant. Est-ce que, par exemple, le trafic de drogue peut bien financer les réseaux islamistes en Eure-et-Loire?
Eh bien oui, vous avez répondu à la question. Effectivement, c'est une source de financement. Bon, ça confirme aussi le fait que les gens qui se radicalisent, finalement, ne sont pas d'aussi fervents musulmans qu'ils le prétendent, et que bien souvent, leur connaissance même de l'islam est très superficielle. Ils cherchent sans doute à se racheter une conduite, à se donner un objectif dans la vie, bien souvent après plusieurs passages dans la délinquance, voire même par la case prison. Et donc, les liens entre la délinquance ordinaire et la radicalisation existent, comme le prouvent effectivement les stupéfiants que l'on a pu trouver de ci, de là au cours des perquisitions.
Quels symptômes rencontre-t-on chez un jeune en voie de radicalisation? Qui sont vraiment les symptômes qui vont vous dire il faut faire quelque chose, soit il faut le surveiller, il faut le sortir de là?
Alors, en général, il est difficile d'établir un portrait robot, pour reprendre votre expression de tout à l'heure, du jeune en voie de radicalisation, mais il y a quand même des points communs. Ce sont souvent des jeunes, contrairement à ce que l'on pourrait penser, qui sont intelligents, qui sont éveillés, parfois sensibles, mais parfois aussi influençables, et souvent victimes d'un climat familial qui n'a pas permis un développement équilibré au cours de leur adolescence. Donc ça peut être un couple en séparation, avec une séparation qui se passe mal, une garde d'enfant alternée avec l'un des deux parents au moins qui joue pas le jeu. Bref, il y a une fragilité qui n'est pas toujours apparente, mais qui est le point commun de beaucoup de ces jeunes en voie de radicalisation. Quant au changement qui peut alerter, c'est le changement de comportement alimentaire, c'est-à-dire soudainement, on décide d'arrêter de consommer du porc, de la charcuterie, on décide qu'on ne va plus utiliser les cosmétiques parce qu'ils utilisent de la gélatine de porc, On décide que, eh bien, on va acquérir du matériel de prière, le tapis de prière ou le foulard islamique, quelle qu'en soit la forme. Donc ça, c'est des signaux d'alerte. C'est la tenue vestimentaire aussi. C'est le fait, par exemple, de se laisser pousser la barbe. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ils ont bien compris que c'est aussi comme ça qu'on les identifie. Et ce que l'on constate, c'est que bien souvent, peu avant le départ vers le djihad, peu avant le passage à l'acte, eh bien, il y a un retour à la normale. Il recommence à s'habiller à l'occidental et à donner tous les signes de la normalité de façon à donner le change.
Comme les hommes du 11 septembre. Hein.
Et c'est exactement ça. Et donc, la vigilance doit nous permettre d'identifier des signaux faibles, mais bien souvent, ça doit être une vigilance partagée, c'est-à-dire à la fois les enseignants, les services sociaux, peut-être le maire de la commune, peut-être le guichet administratif, et c'est en recoupant tous ces signaux qu'on arrive à établir une information probante.
Vous avez parlé de signaux forts, notamment concernant le changement d'alimentation. Alors ça, ce sont des signaux qui, évidemment, sont détectés en famille. Ça veut dire qu'il y a des parents qui ont peur et qui, subitement, eh bien, font appel à vous.
Oui, parce que pas mal de ces jeunes en voie de radicalisation n'ont aucune ascendance musulmane. Ils peuvent être de famille chrétienne. On a même eu un cas d'une famille d'origine juive. Ils peuvent être d'ascendance non croyante, donc agnostique. Et effectivement, c'est un changement brutal qui se fait jour dans la famille. Et les parents sont parfois un peu démunis face à ce changement de comportement, qui d'ailleurs n'est pas toujours apparent. C'est-à-dire que la jeune fille va emporter le foulard dans le cartable et ne le mettre qu'à bonne distance de la maison et le soir l'enlever avant de rentrer à la maison, par exemple. Mais les parents constatent quand même un changement de comportement, le fait que le jeune va se refermer sur lui-même, qu'il va changer de fréquentation, peut-être en termes de scolarité avoir des résultats un peu moins bons. Et c'est difficile pour le parent de faire le signalement de son propre enfant. En général, malheureusement, quand ce signalement a pour origine les parents, bah, il est parfois déjà trop tard.
Alors, y a-t-il en Eure-et-Loire des foyers de radicalisation ? Alors, par foyer, j'entends des lieux, vraiment concrètement, des mosquées, des caves, des appartements, où des noyaux seraient en formation. Et quand je dis formation, formation aussi intellectuelle, ce qui implique l'intervention d'un guide.
Alors, on entend souvent dire que, finalement, la radicalisation islamique est un phénomène étroitement lié à l'Internet et peut-être même exclusivement lié à l'Internet. C'est à la fois vrai et faux. Bien souvent, effectivement, les réseaux sociaux, l'Internet, le téléphone portable sont des médias qui sont utilisés par les recruteurs. Mais bien souvent aussi, à un moment donné, dans l'évolution du jeune en voie de radicalisation, eh bien, on croise le chemin d'une mosquée, d'un imam, de musulmans. Et c'est pourquoi, encore une fois, il faut que tous nous jouions le jeu de la vigilance, y compris les musulmans, qui parfois, d'ailleurs, peuvent avoir l'impression d'être doublement victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des victimes du djihadisme et du terrorisme dans le monde, eh bien, ce sont des musulmans. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous, occidentaux, ça nous frappe quand il y a des attentats à New York, à Paris ou à Bruxelles. Mais dans le monde, la grande masse des victimes du djihadisme, eh bien, ce sont des musulmans. Donc les musulmans d'ici ont parfois l'impression d'être à la fois victimes du terrorisme et victimes de la désapprobation, d'être montrés du doigt par les non-musulmans, par les Français qui ne pratiquent pas la religion musulmane, et de devoir, en quelque sorte, rendre des comptes alors qu'ils estiment qu'ils n'ont rien à voir avec les djihadistes. Et il est vrai que l'immense majorité des musulmans n'ont rien à voir avec ces djihadistes. Il y en a quelques-uns qui sont ambigus, évidemment, mais la grande masse d'entre eux n'a rien à voir. Pour autant, il est important quand même, dans cette société où les médias ont pris une si grande place, dans cette société où il y a quand même une grande confusion des messages, eh bien, il est important de lever tout amalgame. Il est important que les musulmans s'ouvrent à l'extérieur et donc, par exemple, on les encourage à faire des journées portes ouvertes, on les encourage à accueillir d'autres religions, à faire des journées ou des soirées interconfessionnelles. Et ils le font bien volontiers. Quasiment toutes les mosquées de Haute-Loire, on en a une vingtaine, tour à tour s'ouvrent et organisent ces journées portes ouvertes. Et je crois qu'il y a beaucoup de richesse derrière ces échanges. Et tous ceux qui, pourtant non musulmans, sont accueillis dans ces journées portes ouvertes, en ressortent éclairés et instruits et vraiment satisfaits de l'accueil qu'ils ont reçu.
Alors vous parlez de l'accueil dans les mosquées. Il y a quand même tout de même en Eure-et-Loir des mosquées qui sont considérées comme salafistes. Alors l'islamisme en France a plusieurs visages. Je voudrais qu'on dise deux mots du salafisme. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ces mosquées réputées salafistes sont sous surveillance ?
Évidemment, c'est une question qui n'appellera pas de réponse très précise. Mais bien sûr, sur la vingtaine de mosquées en Eure-et-Loire, il y en a peut-être une ou deux qui peuvent accueillir de manière temporaire des gens qui pratiquent un islam, on va dire salafiste, rigoriste. Précisons tout de même que le salafisme n'est pas le djihadisme. Le salafisme, c'est une pratique de l'islam qui préconise de revenir aux bases de la pratique musulmane. Et une petite partie des salafistes verse dans le terrorisme et le djihadisme. Une fois qu'on a dit ça...
Ce ne sont pas non plus de grands républicains, généralement, les salafistes, tout de même, non ?
Ils ont des valeurs qui leur sont propres, mais néanmoins, ils sont... en général, respectueux de la puissance publique, respectueux de l'État. Et donc, on les prend rarement en défaut du point de vue du respect des lois. Ils vivent entre eux de façon communautaire. Ils sont peut-être moins ouverts que d'autres, mais ils ne sont pas pour autant tous terroristes, et heureusement. Donc nous, ce que nous surveillons, c'est plutôt les allées et venues de personnes qui seraient extérieures au département et qui pourraient venir y prêcher un message qui ne serait pas conforme aux valeurs républicaines. Ce sont les fameux prédicateurs. Et puis, comme nous sommes au port de la région Île-de-France, on peut représenter une terre facile d'accès pour eux. Et donc, évidemment, ceux-là, on les surveille. Et puis, on surveille aussi ceux qui pourraient se réunir en marge des mosquées. Vous avez cité tout à l'heure un nom d'un terroriste, donc Mostefa, et on peut le reprendre. En fait, il fréquentait des réunions particulières, à 3 ou 4, avec un prédicateur venu d'autres départements, et tout ça se passait en marge de la mosquée. Hein, ce n'était pas au sein de la mosquée qu'il s'était radicalisé.
Mosquée, je crois, du Tablir, hein, un mouvement quiétiste. Alors, il y a un autre visage de l'islamisme qui est celui des frères musulmans. Il est officiellement représenté au sein du Conseil du culte musulman par l'UOIF et de nombreuses associations musulmanes, y compris en Eure-et-Loire, appartiennent à ce courant. Est-ce que ces associations, elles aussi, sont sous surveillance ou est-ce qu'au contraire, sont des interlocutrices de l'État ?
Pour chaque mosquée, il y a une association gestionnaire, au moins une, parfois plusieurs. Mais il est nécessaire qu'il y ait ces associations qui, d'ailleurs, fonctionnent sur la base du bénévolat. Donc ceux qui passent leur temps à construire, à entretenir ces mosquées et ces salles de prière, en fait, le font de manière bénévole. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui organisent les journées portes ouvertes et qui préparent les cornes de gazelle, le thé à la menthe pour leurs visiteurs du jour. Donc en ça, ils jouent quand même un rôle d'intérêt général. Et ces associations sont absolument nécessaires au fonctionnement de ces mosquées. Ensuite, vous disiez, sont-elles particulièrement sous surveillance ? Je pense que nous prenons le problème différemment. Nous les appelons, elles aussi, à la vigilance. On les appelle à nous signaler tout comportement qui serait pour elles déviant. Tout à l'heure, je disais que le groupe de Mostefaï se réunissait en marge de la mosquée. Peut-être qu'un jour, quelqu'un a pu voir ces trois ou quatre se réunir à la sortie de la mosquée et puis ensuite rejoindre un appartement. Eh bien, ce jour-là, il nous aurait été utile que le signal d'alarme soit lancé. Et donc, vraiment, nous appelons à leur vigilance et nous les rencontrons régulièrement. Le préfet les a toutes réunies en juin 2015, il les a de nouveau réunis en décembre 2015. Le sous-préfet de Dreux l'a refait la semaine dernière pour évidemment les associations de son arrondissement. Encore une fois, l'idée c'est de leur montrer que pour nous ce sont des interlocuteurs tout à fait valables, que nous cherchons à favoriser le dialogue avec elles et que nous avons aussi besoin d'elles pour lutter contre un phénomène qui d'ailleurs les met en danger au même titre que nous.
Alors, dernier point, la lutte contre l'endoctrinement des jeunes. Il existe en Eure-et-Loire une cellule qui s'est attelée à cette tâche. Vous en faites partie, je crois le savoir. Alors, où en êtes-vous dans ce combat difficile ? Je dis difficile parce qu'en l'occurrence, il y a un ennemi implacable qui s'appelle Internet et qu'on maîtrise beaucoup moins bien, semble-t-il, que les djihadistes.
Alors, effectivement, Internet est un vecteur d'embrigadement redoutable. Donc, ce que nous faisons, c'est que de manière hebdomadaire, nous réunissons les services compétents autour de ces questions-là. Nous avons deux bases de données, on va dire ça comme ça, l'une concernant les majeurs et l'autre concernant les mineurs en voie de radicalisation. Et pour les mineurs en voie de radicalisation, nous essayons d'utiliser au maximum les outils de police administrative à notre disposition. Ça peut être par exemple l'opposition à la sortie du territoire, dès lors que l'un au moins des deux parents est d'accord pour nous aider et valider ce process. Ça peut être, s'agissant d'un majeur, une interdiction de sortie du territoire qui est assortie de la confiscation des pièces d'identité. Et donc évidemment, ça rend plus difficile le fait de sortir du territoire national pour rejoindre les terres du djihad. Alors ça, ce sont des outils administratifs. Après, il y a évidemment tout ce que vous pouvez imaginer que je ne peux pas dire, qui relève de la surveillance à la fois policière et par les services de renseignement. Pour ce qui est des mineurs, notre objectif, évidemment, est différent. Il ne s'agit pas de les empêcher de passer à la violence, puisqu'ils sont encore assez jeunes, et on considère qu'on peut encore leur rappeler les valeurs républicaines et les ramener dans le sérail de la République. Et donc, nous essayons de mettre en place, avec le centre de le CCMM, le Centre de lutte contre les manipulations mentales, une contre-information via les parents. On essaie de donner aux parents des clés pour agir, pour réagir à bon escient. Parfois il faut être ferme, parfois il faut savoir écouter aussi. Opposer un mur n'est pas forcément la meilleure façon de réagir à un jeune qui, comme vous le disiez, reçoit des messages du téléphone, de l'internet ou d'autres vecteurs encore. Pour ce qui est des jeunes, on essaye aussi de travailler étroitement avec l'éducation nationale et on y arrive bien parce que chacun joue le jeu. Et donc nous avons sensibilisé l'ensemble des proviseurs, des principaux de collège, des conseillers principaux d'éducation. Nous avons entamé aussi la sensibilisation des professeurs, puisque nous considérons que les professeurs sont souvent la première vigie. C'est eux qui sont au contact direct des élèves et qui sont le plus en mesure de nous faire une détection précoce. Il est important que cette détection soit la plus rapide possible pour éviter que le message ne soit trop ancré dans la tête du jeune. Et donc, avec tous ces gens de l'éducation nationale, avec les assistants sociaux du conseil départemental que nous avons aussi sensibilisés, avec les guichets administratifs que nous avons aussi sensibilisés sur ce que j'appelais tout à l'heure les signaux faibles, nous essayons de repérer le plus vite possible des jeunes qui seraient en train de basculer et on se tient informés mutuellement une fois par semaine et une fois par mois en réunion plénière sur l'évolution de la situation.
Est-il arrivé qu'il soit nécessaire de, je reprends le terme de Dounia Bouzard, de déprogrammer certains jeunes, de faire tout un travail comme ça intérieur avec une association ou une autre pour tenter justement de déprogrammer ces jeunes radicalisés?
Alors, en général, le premier acte des recruteurs djihadistes ou de Daesh, c'est en effet la séduction. Alors ça peut être la séduction amoureuse dans le cas par exemple d'une jeune fille. Ça peut être la séduction par le jeu vidéo guerrier qu'on propose de mettre à l'œuvre concrètement pour un jeune garçon. Ensuite passe la phase de séparation, c'est-à-dire qu'on essaye de couper le jeune de ses attaches familiales, amicales, scolaire, social, avec notamment la théorie du complot, on essaye de décrédibiliser tous les messages officiels, qu'ils viennent des personnes qui ont autorité sur le jeune, ou des gendarmes, des policiers, de l'État. Et s'ils y arrivent, tous les messages que nous essayons de passer, finalement, sont empreints de suspicion et ne font chez le jeune que confirmer que nous sommes tous complices de ce fameux complot. Et donc, en pareil cas, il est effectivement nécessaire de déprogrammer, reprogrammer le jeune. Et c'est là où la tâche est la plus difficile, sans doute. Ça appelle des compétences que nous n'avons pas, nous, personnellement, mais, comme je le disais, on fait appel à des spécialistes de l'emprise mentale, de l'emprise sectaire, puisque, finalement, la radicalisation, plus qu'un phénomène religieux, c'est souvent un phénomène sectaire. Et la différence entre religion, ça vient du latin réunir, sectaire, sécateur, couper, la religion réunit, la secte coupe la personne de son environnement immédiat. Donc avec ces spécialistes de l'emprise sectaire, on a bon espoir de ramener ces jeunes sur une voie plus conforme aux valeurs républicaines.
C'était Frédéric Loué, directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loire et qui a en charge donc l'état d'urgence dans notre département. Excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition Chartraine, des nouvelles d'ici et d'ailleurs.
تكون ترى بيني كيف تبذلات يا قاسم الجيل